Chapitre 4. J'effectuais ma première patrouille en solo depuis de bonnes heures quand j'ai reçu ma toute première demande d'intervention pour querelle conjugale. Violence verbale, disait le central. En clair, les occupants du 25B se disputaient tellement bruyamment que ça empêchait les voisins de dormir. Voisins énervés, coup de fil à la police. A priori, rien de bien excitant. L'agent se pointe, les occupants du 25B se taisent et déposent sans doute un sac de crottes enflammées devant la porte de leur voisin le lendemain matin. Mais à l'école de police, on nous avait bien enfoncé ça dans le crâne. Une intervention de routine, ça n'existe pas. Soyez vigilants, soyez prêts, soyez prudents. Je n'ai pas arrêté de transpirer dans ma tenue bleu marine en me rendant au 25B. Pendant les 12 premières semaines, les nouvelles recrues sont supervisées par un tuteur expérimenté. Ensuite, on patrouille seul. Pas de partenaire pour vous tenir compagnie, pas de coéquipier pour couvrir vos arrières. Au lieu de ça, tout tourne autour du central. Dès l'instant où vous montez dans votre voiture, où vous en descendez, où vous vous arrêtez pour prendre un café, où vous vous rangez sur le bas-côté pour pisser, vous le signalez au central. Le centre opérationnel, c'est votre assurance vie. Et quand ça tourne au vinaigre, c'est lui qui envoie la cavalerie, les collègues de la police d'État, à la rescousse. Sur les bancs de l'école, ça m'avait paru un bon plan. Mais à 1h du matin, en descendant de voiture dans un quartier que je ne connaissais pas, en marchant vers une maison que je n'avais jamais vue pour parler à deux personnes que je n'avais jamais rencontrées, d'autres paramètres me venaient à l'esprit. Le fait, par exemple, qu'il y a environ 1700 agents d'État, mais qu'à chaque instant, il n'y en a que 600 en patrouille. Et que ces 600 agents couvrent tout l'État du Massachusetts. Autrement dit, nous sommes complètement dispersés. Autrement dit, quand les choses tournent mal, ça ne se règle pas en 3 minutes. Nous formons une grande famille, mais nous sommes quand même très seuls. Je me suis approchée de l'immeuble comme on me l'avait appris, coude à la ceinture pour protéger mon arme de service, épaule légèrement de biais pour faire une cible plus étroite. Je me suis écartée de l'axe des fenêtres et je suis restée sur le côté de la porte pour ne pas me trouver dans la ligne de tir. Le principal motif des demandes d'intervention reçues par un agent est « situation inconnue ». À l'école, on nous recommandait de toujours agir comme si c'était le cas. Le danger est partout. Tout le monde est suspect. Tous les suspects mentent. C'est une façon de travailler. Pour certains policiers, ça devient aussi une façon de vivre. J'ai monté 3 marches jusqu'à un petit perron et je me suis arrêtée pour respirer un bon coup. Me donner de la prestance. J'avais 23 ans, j'étais de taille moyenne et jolie pour mon malheur. Il y avait des chances que l'individu qui allait ouvrir la porte soit plus âgé, plus baraqué et plus brutal que moi. Il fallait quand même que je domine la situation. Pieds écartés, épaules droites, menton relevé. Comme disaient les autres nouveaux pour rigoler, ne jamais leur laisser voir qu'on transpire. Je me suis tenue sur le côté. J'ai frappé à la porte. Et j'ai bien vite rentré les pouces dans la ceinture de mon pantalon bleu marine pour empêcher mes mains de trembler. Aucun bruit de dispute. Aucun bruit de pas. Mais il y avait de la lumière. Les occupants du 25B ne dormaient pas. J'ai frappé encore, plus fort. Aucun mouvement. Aucun signe des habitants. J'ai tripoté mon ceinturon en réfléchissant à la suite des opérations. On m'avait demandé d'intervenir, donc il allait falloir que je fasse un rapport, donc il fallait que j'établisse un contact. Alors je me suis grandie et j'ai frappé, mais alors pas de main morte. Bam, bam, bam! J'ai martelé la méchante porte en bois à coups de poing. J'étais agent d'État, nom d'un chien. Je n'allais pas me laisser traiter par le mépris. Cette fois-ci, bruit de pas. 30 secondes plus tard, la porte s'ouvrait en silence. La femme qui vivait au 25B ne m'a pas regardée. Elle regardait par terre pendant que le sang dégoulinait sur son visage. Comme je l'ai appris cette nuit-là, et lors de bien des nuits depuis, les principaux gestes à faire en cas de violence conjugale sont toujours les mêmes. D'abord, l'agent sécurise les lieux. Première inspection rapide pour identifier et supprimer tout danger potentiel. Qui d'autre se trouve dans la maison? Est-ce que je peux faire le tour? Est-ce que c'est votre arme de service? Je vais devoir la prendre. Y a-t-il d'autres armes à feu dans la propriété? Je vais également avoir besoin de votre ceinturon. Enlevez-le, sans mouvement brusque. Merci. Je vais vous demander de retirer votre gilet pare-balles. Vous avez besoin d'aide? Merci. Je vais prendre ça maintenant. Je vais vous demander de passer dans le jardin d'hiver. Asseyez-vous là. Ne bougez pas, je reviens. Une fois les lieux sécurisés, l'agent examine l'individu de sexe féminin pour évaluer les blessures. À ce stade, il ne présume de rien. L'individu n'est ni suspect ni victime. C'est simplement une femme blessée. Et il la traite donc comme telle. La femme présente une plaie à la lèvre, un œil au beurre noir, des marques rouges sur la gorge et des lacérations au front côté droit. Souvent, les femmes battues vous expliqueront que ça va. Pas besoin d'une ambulance. Fichez le camp et foutez-leur la paix. Ça ira très bien demain matin. L'agent bien formé ne tient pas compte de ce genre de déclaration. Il y a lieu de penser qu'il y a eu délit, ce qui met en branle les rouages de la justice pénale. Peut-être que la femme va tuer la victime, comme elle le prétend, et qu'elle refusera en fin de compte de porter plainte. Mais peut-être qu'elle est l'auteur du délit. Peut-être qu'elle a reçu ses blessures alors qu'elle rouait de coups un individu X. Dans ce cas, elle serait coupable et il faudrait garder la trace de ses blessures et de ses déclarations en prévision des poursuites que pourrait engager le dit individu X. Là encore, ne présumez de rien. L'agent informera le central de la situation, demandera des renforts et fera venir une ambulance. D'autres personnes commenceront à arriver, des agents tenus, du personnel médical, des sirènes se feront entendre à l'horizon, des véhicules de police s'enfileront dans le mince goulot des rues de la ville pendant que les voisins se masseront à l'extérieur pour profiter du spectacle. Les lieux deviendront très animés et il sera d'autant plus important pour le premier intervenant de consigner. Il se livrera à une inspection visuelle plus détaillée, procédera aux constatations et prendra les premières photos. Cadavre de sexe masculin, proche de la quarantaine, environ 1m80, 105 à 110 kg, 3 plaies par balle au milieu de la poitrine, trouvé sur le dos, 60 cm à gauche de la table de la cuisine, 2 chaises de cuisine en bois renversées, tessons de verre vert sous les chaises, une bouteille verte cassée, étiquetée Heineken, 15 cm à gauche de la table de cuisine. Six hours semi-auto découvert sur table en bois ronde, cartouches retirées et chambre vidée par l'agent, en sachet et étiquetée. Salon, rien. Deux chambres et salle de bain de l'étage, rien. D'autres agents en tenue viendront prêter main forte, interrogeront les voisins, sécuriseront le périmètre. La femme restera enfermée dans une pièce à l'écart de l'agitation et le personnel médical s'occupera d'elle. Une ambulancière prend mon pouls, tâte doucement mon orbite et ma pommette, cherche une fracture. Elle me demande de dénouer ma queue de cheval pour mieux soigner mon front. Se sert d'une pince à épiler pour retirer le premier tesson vert, qui sera ensuite comparé avec la bouteille de bière brisée. Comment vous sentez-vous, madame?
Mal à la tête.
Est-ce que vous avez le souvenir de vous être évanouie ou d'avoir perdu connaissance?
Mal à la tête.
Est-ce que vous avez la nausée?
Oui.
J'ai un haut le cœur, j'essaie de ne pas perdre pied, même si j'ai mal, l'esprit confus, même si je suis de plus en plus désorientée, ça ne peut pas être en train d'arriver. Ça ne devrait pas être en train d'arriver. L'ambulancière continue d'examiner ma tête, trouve la bosse en train de grossir à l'arrière de mon crâne. Qu'est-ce qui est arrivé à votre tête?
Quoi?
L'arrière de votre tête. Vous êtes sûr que vous n'avez pas perdu connaissance, que vous n'êtes pas tombé?
Je regarde l'ambulancière, absente. Qui tu aimes?
Dis-je tout bas. L'ambulancière ne répond pas. Étape suivante, recueillir une première déposition. Un bon agent notera à la fois ce que dit le sujet et comment il le dit. Les personnes réellement en état de choc ont tendance à bafouiller, à fournir des bribes d'informations, mais sans pouvoir reconstituer un tout cohérent. Certaines victimes font un épisode de dissociation mentale. Elles parlent d'une voix monocorde, saccadée, d'un événement qui déjà dans leur esprit ne leur est pas arrivé. Et puis il y a les as du mensonge, ceux qui font semblant de bafouiller ou d'être victimes d'une dissociation. Tout menteur finira par se couper. donner un peu trop de détails, paraître un peu trop posé. C'est là que le bon enquêteur peut lui sauter dessus.
Vous pouvez me dire ce qui s'est passé à Jean-Léonie ?
Un enquêteur du commissariat de quartier livre le premier round. Pas tout jeune, les tempes grisonnantes, il a l'air gentil. Choisit de me traiter en collègue.
Je n'ai pas envie de répondre.
Il faut que je réponde. Mieux vaut l'enquêteur de quartier que l'enquêteur de la brigade criminelle qui lui succédera.
La tête me lance, mes tempes, ma joue. J'ai le visage en feu. Envie de vomir. Je lutte contre la sensation. Mon mari, murmurai-je.
Je baisse les yeux par inadvertance. Je m'aperçois de mon erreur, me force à lever les yeux, à regarder l'enquêteur en face.
Parfois, quand je rentrais tard du travail, mon mari se mettait en colère.
Une pause. Ma voix plus forte, plus assurée.
Il m'a frappée.
Où vous a-t-il frappé ?
Au visage, à l'œil,
à la joue. Mes doigts passent d'un endroit à l'autre, ravivent la douleur. Dans ma tête, je ne cesse de revivre un instant précis. Lui menaçant au-dessus de moi. Moi tremblante sur le lino, réellement terrifiée.
Je suis tombée, récitai-je pour l'enquêteur.
Mon mari a pris une chaise. Silence. L'enquêteur attend que j'en dise davantage. Que j'invente un mensonge, que je dise la vérité.
Je ne l'ai pas frappé,
continuai-je tout bas. J'en ai recueilli assez de ses dépositions. Je sais comment ça se passe. Nous le savons tous.
Quand je ne résistais pas, dis-je comme un automate, il se lassait, il partait. Quand je résistais, c'était toujours pire au bout du compte.
Votre mari a pris une chaise à Jean-Léonie. Où étiez-vous à ce moment-là ?
Par terre.
Ou dans la maison ?
Dans la cuisine.
Quand votre mari a pris la chaise, qu'avez-vous fait ?
Rien.
Qu'a-t-il fait ?
Il l'a lancée.
Dans quelle direction ?
Vers moi.
Est-ce qu'il vous a touché ?
Je ne me souviens pas.
Ensuite, que s'est-il passé à Jean-Léonie ? L'enquêteur se penche en avant, me dit visage plus attentivement. L'inquiétude se lit sur son visage.
Mon regard ne va pas.
Mon récit est trop détaillé.
Pas assez. J'ai perdu mes dents de devant. Mais pourtant, maman, je les brossais souvent.
La comptine résonne dans ma tête. J'ai envie de rire bêtement.
Je me retiens. Maman, je t'aime. Je t'aime.
Je lui ai renvoyé la chaise, dis-je à l'enquêteur. Vous lui avez renvoyé la chaise ?
Il s'est encore plus énervé, alors j'avais bien dû faire quelque chose, non ? Puisqu'il s'est encore plus énervé.
Vous portiez votre tenue complète à ce moment-là ?
Je croise son regard.
Oui. Vous aviez votre ceinturon ? Et votre gilet pare-balles ?
Oui.
Avez-vous essayé de prendre quoi que ce soit dans votre ceinturon ? De faire un geste pour vous défendre ?
Je le regarde toujours dans les yeux.
L'enquêteur m'observe d'un air intrigué. Que s'est-il passé ensuite ?
Il a pris la bouteille de bière. Il me l'a cassée sur le front. J'ai réussi à le repousser. Il a reculé vers la table. Je suis tombée contre le mur, dos au mur. Il fallait que je trouve la porte. Il fallait que je m'en aille.
Silence. À Jean-Léonie ?
Il avait le tesson de bouteille,
murmurai-je.
Il fallait que je m'en aille, mais piégée par terre. Contre le mur, je le regardais.
À Jean-Léonie.
J'ai eu peur de mourir,
soufflai-je.
Je sentais mon pistolet à ma hanche, il m'a foncé dessus. J'ai eu peur de mourir.
À Jean-Léonie, que s'est-il passé ?
J'ai tiré sur mon mari.
À Jean-Léonie.
Je croise son regard une dernière fois. Et je suis partie à la recherche de ma fille.